était là, vous vous en souvenez, hein, ma chérie. Donc cette semaine, il sera moins prestigieux, je suis désolé, vous devrez faire avec moi. Oh, dommage. Et j'ai envie de vous parler de quelque chose. Yaline, elle nous a... Vous lancez l'enregistrement ou pas là-bas? Je ne sais pas si c'est... Hein? C'est bon? D'accord. Ok, donc vous pouvez lancer l'enregistrement. Aline, elle nous a proposé une image, et puis moi j'aimerais aussi vous proposer une scène pour démarrer ce message. Vous essayez d'imaginer avec moi. Donc dans cette scène-là, il y a une personne qui se tient devant un grand feu, et puis dans ses mains, il a un bijou qui est extrêmement précieux, qui a une valeur, la plus grande valeur, c'est le bijou qui a le plus de valeur sur la terre. Mais cette personne, elle est là devant ce feu, et elle déteste ce bijou. Et elle a décidé, résolument dans son cœur, de prendre ce bijou et de le balancer dans le feu. Elle s'en moque de sa valeur, elle s'en moque que ce bijou soit particulièrement puissant, elle le jette dans le feu. Enfin, elle veut le jeter dans le feu. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive par derrière et qui lui attrape le bijou et qui lui enlève. Dans cette histoire, on est pour qui ? On est pour celui qui jette le bijou ou on est pour celui qui le rappelle à la raison et qui l'en empêche ? Hein ? Et si maintenant je vous raconte que cette histoire, c'est celle du Seigneur des Anneaux, et que c'est Frodon qui est devant l'étang de feu, et qui a une seule mission, c'est de détruire cet anneau qui va enfin ramener la paix, parce que cet anneau, il a une puissance maléfique. Et qu'il y a quelqu'un qui essaye de l'empêcher, et prend cet anneau pour le garder pour lui, et qui fera que ça continuera les problèmes, etc., dans cette histoire-là. On est toujours pour les mêmes, ou pas ? Je voulais juste vous montrer à quel point c'est important la perspective avec laquelle on regarde les choses. C'est important de connaître l'histoire et de voir les choses globalement pour pas fausser en fait l'interprétation dans laquelle on est. Et c'est pour ça que ce matin je voulais vous parler du fait de changer de perspective et dans cette notion d'avoir une vie qui est centrée sur Christ. Alors on va encore parler de perspective un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez là ? Qui voit un canard ? Est-ce qu'il y en a aussi qui voient un lapin ? Ouais, hein. Vous le voyez ? Ouais, c'est bon, vous l'avez ? Ok. Avec notre cerveau, on peut faire des choses incroyables selon la perspective avec laquelle on regarde. Hein ? Des empreintes. Ok. Une autre. Est-ce que ces lignes, elles sont droites ? Est-ce qu'elles sont parallèles ? Les lignes horizontales ? Vous en êtes sûr ? Est-ce que vous les percevez ? Droite ou pas ? À vue de nez, si vous faisiez des travaux chez vous, là, vous auriez fait quoi ? Vous les auriez redressés ou pas ? Ça ressemblerait presque aux travaux que je suis capable de faire. Non, ces lignes, elles sont effectivement bien droites. Et encore une fois, il est question de la perspective avec laquelle on regarde les choses. Et j'aimerais en fait rebondir sur le message que Véronique nous a partagé la semaine dernière, où elle est partie de Romains 12 au verset 2. Et où ce passage nous dit de ne pas prendre comme modèle le monde actuel, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et elle nous a vraiment invités à changer de mentalité, elle nous a invités à ne pas nous conformer à la pensée et à la réflexion du monde et à nous laisser renouveler en fait dans notre intelligence et dans notre cœur. Elle nous a parlé de la justification qu'on recevait au moment de notre conversion, au moment de notre réponse de foi. Et puis elle nous a parlé de la repentance et du chemin de sanctification, du fait que nous étions en marche dans ce chemin. Et j'aimerais partir en fait de ce verset-là et donner un contexte un petit peu à ce que Paul veut nous dire dans Romains. Et pour ça, j'aimerais qu'on remonte un verset plus haut, dans Romains 12, au verset 1, et qu'on comprenne en fait ce commandement de ne pas nous conformer au monde, dans quel contexte il est donné. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce sera de votre part un culte raisonnable. Et donc le changement de mentalité auquel on est appelé, c'est pas mieux penser, c'est pas être plus solide, c'est pas moins péché. C'est d'abord accepter que je dois sacrifier ma vie pour poursuivre Dieu et que je dois considérer que ce sacrifice-là, il est juste raisonnable et qu'il n'est pas selon la raison du monde, parce que le monde, il n'accepte pas le sacrifice aujourd'hui. Ce n'est pas selon la raison du monde et c'est pour cette raison-là qu'il y a besoin d'un changement de mentalité. Mais je sais pas, je suis le seul à trouver que c'est choquant de dire que de sacrifier ma vie, c'est juste raisonnable. Ou est-ce que ça vous choque aussi ? Sincèrement, ça m'a longtemps choqué, ça continue. Parce que pour moi, quelqu'un qui va se sacrifier, c'est quelqu'un dont on va dire qu'il est un héros. C'est quelqu'un qui va mourir en héros. C'est quelqu'un qu'on va célébrer. C'est quelqu'un dont on va parler dans les médias. C'est quelqu'un dont on va peut-être même faire des statues. Mais en tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui va être considéré comme juste, raisonnable. Le sacrifice n'est pas juste, raisonnable, selon la raison de ce monde. Et voilà, sincèrement, je trouve que dans ma pensée humaine, ça me choque. Et c'est pas le seul endroit où c'est pas le seul endroit où Dieu nous choque. Et j'aimerais juste m'arrêter là-dessus ce matin, un petit moment, le fait de réaliser en fait qu'il y a des moments où Dieu peut nous choquer. Dieu peut choquer notre façon de penser. Dieu peut nous choquer dans nos émotions. Dieu peut nous choquer. Enfin, je vais le dire autrement. Nous pouvons être choqués. C'est pas Dieu qui nous choque volontairement. Mais nous pouvons être choqués par Dieu, heurtés dans le fait que Dieu fasse ceci ou commande cela dans la Bible. Et j'aimerais juste vous donner quelques illustrations dans le fait que Dieu demande par exemple à Abraham de sacrifier son fils, Isaac. Dieu a promis à Abraham un fils. Isaac naît enfin quand Abraham a une centaine d'années. Le fils de la promesse est enfin là et Dieu lui demande de le sacrifier. Elle est où la raison là-dedans ? Elle est où la raison humaine ? Il n'y en a pas. Et pourtant, pour Dieu, selon sa perspective, il y avait un sens à tout ça et on sait que Dieu a pourvu. Le fait que Dieu se choisisse un peuple le plus petit et qu'il lui donne la victoire au détriment des autres nations qui sont exterminées, est-ce que ça ne vous choque pas ? Le fait que Jésus, de la même manière, choisisse seulement 12 disciples avec l'ambition de gagner le monde entier en leur donnant autorité sur toute chose. Est-ce que ça ne vous choque pas ? Est-ce que c'est comme ça que vous auriez procédé en tant que Dieu si vous vouliez gagner le monde ? Sincèrement, je ne pense pas. Uzza, qui marchait derrière l'arche et qui voit l'arche, qui commence à branler et tomber et qui met la main pour la rattraper, qui l'empêche de tomber, mais qui meurt parce qu'il a touché cette arche. Est-ce que ça ne nous choque pas ? Dieu qui envoie le déluge pour exterminer sa création. Ou qui disperse les hommes à Babel. Est-ce que ça ne nous choque pas ? Vous avez compris, j'ai envie qu'on soit choqués ce matin. Jésus qui dit qu'il amène l'épée plutôt que la paix, qui ne rentre pas à Jérusalem en tant que roi, alors que c'est ce qu'Israël attendait, ils attendaient le roi qui ramènerait la paix. Jésus n'est pas rentré comme ça, il a choisi de ne pas le faire comme ça. Le fait que Jésus nous commande d'aimer nos ennemis, qui nous commande de tendre la joue gauche quand on s'est fait taper sur la droite, qui nous commande de donner notre chemise à celui qui vient de voler notre veste. Est-ce que tout ça, ça ne nous choque pas ? Est-ce que ça ne choque pas ce sentiment de justice qui est en nous ? Dieu qui choisit de cacher plein de choses aux sages et aux intelligents et de les révéler aux enfants, est-ce que ce n'est pas choquant dans son plan aussi ? Il y a tellement de sujets, je trouve, sur lesquels on ne comprend pas tout de suite ou alors même on ne comprend jamais. Donc là-dedans, il y a quand même des sujets, bien sûr, qui ne sont pas des mystères. On sait pourquoi Dieu a agi comme ça. Mais parfois, on a du mal à comprendre pourquoi Dieu agit ainsi. Mais il y a quelque chose qui est fondamental, et c'est ce sur quoi j'aimerais qu'on s'arrête ce matin, c'est qu'il faut qu'on l'accepte, que ce soit comme ça. On peut se poser la question, on l'entend souvent, pourquoi un Dieu d'amour ne sauve pas tout le monde ? Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi il ne sauve pas la terre entière ? Et s'il le faisait, les autres diraient « Mais comment un Dieu juste ne punit pas la faute ?» On aurait toujours quelque chose à redire. on aurait toujours, toujours, toujours quelque chose à redire. Et je veux qu'on se souvienne de ça ce matin. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, comme il le veut. C'est quelque chose qu'on doit accepter. Et la question, elle est donc de savoir avec quels yeux je regarde l'histoire. Est-ce que quand je regarde Dieu agir, je suis dans cette histoire où je vois juste quelqu'un qui est en train de jeter au feu un bijou précieux, il faut que je l'en empêche? Ou est-ce que j'ai compris l'histoire dans son ensemble? Parce que ma perspective, elle ne sera pas la même. Et le deuxième focus que je voulais qu'on fasse ce matin, c'est celui-là, c'est le fait qu'on voit souvent beaucoup par nous-mêmes. On a dans nos cœurs, par rapport à plein de choses, ce sentiment d'injustice, notamment dans ce que j'ai lu juste avant, la manière dont Dieu peut nous choquer. Il y a un sentiment d'injustice parfois qui est dans notre cœur. Et ce sentiment d'injustice, il est normal, parce que la justice est quelque chose que l'Esprit dépose en nous. Donc c'est un fruit. On a cette notion-là, par le Saint-Esprit, de la justice de Dieu. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait? Mais en même temps, il faut aussi savoir qu'il y a une notion d'injustice qui naît du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui a amené un jugement dans nos vies, qui a amené le fait que notre intellect est perverti, et le fait qu'on a changé de perspective dans notre vision du plan divin. Et il faut donc comprendre que ce sentiment d'injustice vis-à-vis de Dieu qu'on peut avoir parfois, ou de ce qu'on ne comprend pas, ne vient pas forcément du sentiment de justice que l'Esprit dépose en nous, mais qui vient aussi du fait que je suis nourri depuis Adam de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui m'amène, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, à juger les choses aujourd'hui, à juger les autres, à juger le monde et à juger Dieu. Je ne veux pas nous accabler ce matin, mais j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur des choses qui, je crois, se passent parfois dans nos cœurs. Même si on ne le veut pas consciemment, enfin, je veux dire, sincèrement, je ne m'assois pas pour juger Dieu chez moi. Mais je crois que si on est totalement honnête, parfois, on a des vrais reproches à faire à Dieu sur la manière dont il agit, plutôt que de lui faire complètement confiance. Et donc ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous amène un jugement, qui nous amène le fait de nous être centrés sur soi plutôt que sur Dieu, parce qu'on a voulu devenir nos propres maîtres, ben il est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Et on le voit dans les lois sociétales qui sont faites aujourd'hui. Le mariage pour tous, l'avortement facilité, le divorce qui est facilité aussi, et combien d'autres lois encore qui prennent en compte simplement le fait que chacun doit pouvoir être ce qu'il veut, en totale liberté. Hein ? Liberté, liberté chérie, sur tous les murs j'écris ton nom, etc. Combien de fois on entend ça ? La liberté qui est écrite sur chacun de nos bâtiments, liberté en premier, égalité, fraternité. On le voit dans les publicités. Combien de fois vous avez dans les publicités, il y en a une que j'ai en tête parce qu'elle tourne pendant la Coupe du Monde, je ne vois pas beaucoup de pubs, on n'a pas la télé, mais pendant la Coupe du Monde, j'en vois quelques-unes, et il y en a une qui m'a interpellé, c'est on voit un homme et une femme où la femme veut essayer le 4x4 de l'autre pour pouvoir en fait finalement aller le salir. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub, hein, où elle roule dans toutes les flaques, etc. Et l'autre ne dit rien à côté pendant tout le temps, il est muet, il laisse faire finalement. Et puis quand elle sort du 4x4 et qu'elle lui dit merci, il est vraiment super, elle va s'installer dans le sien qui est exactement le même et qui reste propre, et elle est contente qu'il soit resté propre parce que c'est le sien. Et il y a vraiment derrière cette publicité une notion de moi et seulement moi. Et ça, on le voit mais à outrance dans nos publicités. On le voit à outrance. Peu importe le couple, peu importe le fait d'avoir des enfants. Je n'ai pas retrouvé cette pub-là, mais je me souviens d'une publicité où il y a une maman qui fait tout pour dégager son mari, pour dégager ses enfants, pour avoir un temps pour elle et uniquement pour elle. Mais c'est même pas... Oui, on doit avoir des temps pour nous, mais c'est fait d'une manière où finalement, il n'y a que moi qui compte à ce moment-là. Et je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux ce genre de réflexion, et il faut qu'on soit conscient que c'est une nourriture dont on est abreuvé aujourd'hui. Chacun doit pouvoir être ce qu'il veut et se réaliser pleinement. Donc dans les publicités, dans les lois. Dernièrement, j'étais au travail, on a eu une discussion sur les WC, parce qu'on fait des travaux au niveau de mon entreprise, ils sont en train de refaire plein de choses, et notamment, il y a une loi maintenant qui impose de ne plus marquer homme ou femme sur les WC, parce que les WC doivent être neutres. si ça, ça paraît pas fou. Mais la discussion a même été plus loin. La discussion a été plus loin parce que il y en a un au niveau de mon travail qui disait oui, et puis même, c'est pas normal, on devrait avoir un troisième WC pour les transgenres, qui sont ni hommes ni femmes. Je lui ai dit oui, tu as raison, et puis pour ceux qui se sentent animaux, il en faudrait un quatrième. Et ceux qui se sentent bougies, il en faudrait un cinquième. Non, c'est... On va loin. On va loin aujourd'hui dans notre individualité, on va loin dans notre nombrilisme, on va loin dans le fait de se réaliser soi-même. Et hier, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont vu le feu d'artifice. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on célèbre le 14 juillet, je suppose que oui. Le 14 juillet, on célèbre la prise de la Bastille. On célèbre le fait qu'on a coupé la tête du roi. Alléluia, on est libre. On a dégagé l'autorité en place. On est libre. Voilà notre héritage. Voilà ce qu'on célèbre chaque année le 14 juillet. Ouais. Mais vous savez, au fond, la Révolution française, comment elle s'est passée historiquement ? On le voit toujours comme... ça nous est présenté comme ça, d'ailleurs. On le voit comme une révolte du peuple contre une autorité qui est injuste et le fait de se soulever et de gagner notre liberté alors qu'on était asservi par une royauté qui était mauvaise. Grosso modo, c'est à peu près ça. On a enfin coupé la tête du roi, on peut enfin vivre comme on l'entend, on peut enfin être libéré de ça. On retrouve cette notion de liberté très forte. Sauf que, dans les faits, la Révolution française, elle a été faite par les nobles. Les nobles qui ont utilisé le peuple pour accéder à un pouvoir auquel ils ne pouvaient pas accéder tant qu'ils n'étaient pas fils du roi. Et donc, on a coupé la tête au roi, et puis on a eu plein d'autres rois à la place, et encore aujourd'hui, on reste confronté à une classe dirigeante de nobles qui est séparée de la classe populaire à laquelle on fait partie. Et l'histoire se répète de cette manière-là. Et on vit dans cette illusion qu'on a gagné une liberté. Et on vit dans cette illusion, en France particulièrement, que dans la révolution, que dans la rébellion, que dans la manifestation, que dans la lutte contre l'autorité, on a une liberté à gagner. Combien notre compréhension de l'autorité, elle est pervertie, et particulièrement en France. Il y a des forteresses dans les pays. En France, la forteresse de l'autorité, c'en est une. On a coupé la tête à notre roi. On a fait comme Adam et Ève. Oui, on avait un Dieu, mais on a voulu être notre propre maître. On a voulu être nous aussi comme des dieux. Et alors on a croqué de ce fruit. Parce que ce fruit, il continue d'être actif dans nos vies aujourd'hui. Il continue d'avoir de l'influence dans notre cœur, dans nos nations. Pas qu'en France, bien sûr, mais on est en France, alors on va parler de notre pays. Et voilà le contexte de la Révolution française, qu'on célèbre chaque année. On célèbre l'indépendance. Ouais. Quel mensonge. Israël avait fait la même chose, hein. Israël a demandé un roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Israël était dirigé par Dieu. Et Israël a demandé un roi. Parce qu'il voulait être comme les autres peuples. Et puis Dieu leur a dit, mais ça ne vous va pas que je sois votre roi ? Que ce soit moi qui règne sur vous ? Non, non, on veut un roi comme les autres. Ok, ben vous aurez un roi selon votre cœur, effectivement. Et puis ils ont eu Saül. Et puis ils ont souffert derrière. Et effectivement, il y avait cette... À ce moment-là, il y avait cette séparation entre le fait que c'était Dieu qui régnait sur ce peuple-là et que le peuple n'a plus voulu que Dieu règne sur lui. Il a voulu qu'un autre soit son roi. Et spirituellement, c'est fort et ça a un impact. Et dans nos cœurs, ça peut être aussi un peu la même chose parfois. C'est ce sur quoi je veux insister ce matin. Parce que je ne sais pas si dans vos discussions avec vos amis, vous n'êtes pas confronté au fait que le cadre qui est donné par Dieu, il apparaît comme restrictif. Je ne sais pas si... Cette question de la liberté, en fait, elle nourrit un nombre de réflexions et un nombre de discussions auprès des gens qu'on connaît qui est assez incroyable. Et dès qu'on aborde finalement dans cette question-là le sujet de la foi, on se fait souvent rabrouer par le fait que, ah oui, mais dans la foi, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et puis notre liberté, elle est bafouée par le cadre finalement qui est donné, par la loi qui est donnée, et on nous présente cette chose-là comme voilà une loi qui va être restrictive. Et j'aimerais juste par rapport à ça vous donner une image qui est l'image d'un balcon à la maison. On n'a pas fini de construire notre... Enfin, si, elle est construite, notre maison, mais il y a plein de trucs qu'on a à finir encore. Et notamment, on a un petit balcon à l'étage, mais sur ce balcon, il n'y a pas de barrière. Et donc, dès qu'on a des enfants un peu en bas âge qui viennent à la maison, on ferme la porte pour que, surtout, on n'ait aucun enfant qui sorte à cet endroit-là. Et puis, même nos enfants ne profitent pas du balcon. Ils y vont, ils penchent un peu pour regarder. Et puis, nous, c'est la même chose, on n'en profite pas non plus, etc., etc. Et le fait de poser une barrière, le fait de poser une limite, va agrandir finalement la liberté qu'on a de pouvoir jouir de ce balcon. Et c'est ça qui va à l'envers de la conception du monde aujourd'hui, que le monde a de l'autorité, que le monde a du cadre qui est donné par Dieu dans nos vies. On a besoin de notre liberté, de faire nos propres choix, on a besoin d'être indépendant. Sauf que dans notre indépendance, je dois réaliser ce matin que je ne peux pas profiter pleinement de tout l'espace que Dieu me donne. Je dois accepter ce cadre donné par Dieu autour de moi. Et c'est une mentalité, la liberté, qui est aussi à l'œuvre au moment de notre conversion. Jésus, il nous dit, toi, suis-moi. Il nous dit de tout abandonner pour le suivre. Et j'aimerais nous interpeller ce matin sur est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a répondu à son appel ? Est-ce que notre façon de répondre à Dieu, elle a été « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur. Je t'accepte comme mon sauveur. » Ou est-ce que notre réponse, elle a été « Mais voilà ma vie, Seigneur. Elle est pour toi. Parce que tu as tout gagné, ma vie, elle est pour toi. » Et il y a des... Quand on achète un véhicule, il y a des choses qui sont optionnelles et il y a des choses qui sont indispensables. On ne va pas se poser la question de savoir est-ce qu'on a besoin d'un volant ou est-ce qu'on a besoin de roues. On en a forcément besoin. Ce qui est plus optionnel, c'est de savoir est-ce qu'on a une clim, est-ce qu'on a une clim Bison, est-ce qu'on a une peinture métallisée, est-ce qu'on a des sièges cuir ou velours, est-ce qu'on a plein de choses, plein d'options particulières, des sièges chauffants, il existe, il y a plein de choses. Et dans notre conversion... Jésus, c'est le volant. Jésus, c'est les roues. Jésus n'est pas une option. Jésus n'est pas quelque chose qui va faire du bien dans ma vie, qui va apporter du bien. Jésus est d'abord en premier celui devant lequel je dois dire « Ok, tu es Seigneur, et ma vie, elle t'appartient complètement. » Et il y a un changement de perspective par rapport à tout ça, parce que je disais, ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est à l'œuvre en nous, et il pervertit notre mentalité. Et je me souviens quand j'étais petit, à l'école, on avait fabriqué une mosaïque qui a été ensuite affichée, mise dans la cour. Et je me souviens que cette mosaïque, ce qu'on m'avait demandé, c'était de fabriquer un petit rectangle de mosaïque qui voulait absolument rien dire. C'était un petit bout où j'avais mis les pièces ensemble, on ne comprenait pas du tout qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, ce passage-là. Et puis on ne nous a pas expliqué non plus, on ne nous a pas montré l'image globale, mais il voulait justement nous interpeller par rapport à ça. Et donc j'ai construit, j'ai obéi. Et j'ai fait ma petite mosaïque telle qu'elle était mise sur le plan. J'ai pris les bonnes couleurs, je les ai mises au bon endroit, etc. Et puis quand j'ai fini, que ça a séché, on a tout mis en commun. Et effectivement, on s'est tous rendu compte que la perspective globale qu'il y avait sur ce qu'on avait fait prenait un sens quand on le regardait de manière globale et pas quand on le regardait juste à notre niveau à nous. Et quand je parle de changer de mentalité, de changer de perspective, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça ce à quoi j'aimerais nous appeler, c'est de faire confiance qu'il y a une perspective qui est plus grande, une perspective qui nous dépasse, la perspective de Dieu dans nos vies. Et la confiance, c'est synonyme de foi, et la foi, elle est à l'œuvre au moment de notre conversion, et c'est la foi de laisser le volant à Dieu et de ne pas prendre le volant et de lui dire « vas-y, tu peux mettre la clim ». Voilà, on a vu Romains 12, 2, hein, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, on voit que Il est lié à Romains 12, 1, le verset précédent, qui dit « Je vous recommande, frères et sœurs, à sacrifier, à offrir vos vies en sacrifice et à considérer que c'est juste raisonnable. » Et ce qui m'interpelle, c'est le « donc ». Je vous recommande « donc ». Et ce « donc », il concerne ça, le fait que Dieu est Dieu. Et les versets qui sont juste avant, on va y remonter, dans Romains 11, 33 à 36, voilà ce qu'ils nous disent. combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire, à jamais. Amen. Et voilà le contexte du sacrifice de nos vies. Voilà ce que ça veut dire de considérer comme raisonnable le fait de donner nos vies en sacrifice. C'est le fait de répondre à cette révélation que Dieu est Dieu. Que Jésus n'est pas seulement mon sauveur, qu'il est d'abord mon Seigneur. Que Dieu est Dieu. Tout est de lui, par lui, pour lui. Tout le concerne, tout concerne sa gloire. Tout concourt à le glorifier, y compris le fait que je sois sauvé. Dans le fait que Dieu me sauve, c'est lui qui est glorifié. Parce qu'il montre sa gloire et sa grâce en venant me chercher, en me tirant, en m'amenant dans son royaume. Et en cela, il est glorifié. Ça ne me concerne pas moi. Moi, je suis au bénéfice de ça. Je suis sauvé par sa grâce. Je suis rempli de son amour. Je suis héritier de sa gloire. En conséquence du fait qu'il est d'abord mon Seigneur. On doit réaliser, mes amis, que sa perspective, elle n'est pas la nôtre. Et qu'elle va infiniment au-delà. Et que dans toutes les choses qu'on ne comprend pas, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes les fois où on peut être choqué de la manière dont Dieu agit, qu'on se souvienne, ok Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. J'accepte. Je capitule. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ta souveraineté. Je reconnais que c'est toi d'abord. Parle-moi, explique-moi. Viens amener ta lumière dans mon cœur pour que je comprenne. Mais ok, je reconnais. Ce verset de Deutéronome qui dit « Reconnais donc aujourd'hui et garde présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a pas d'autre. Obéis à ses lois et à ses commandements que je te transmets aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu vives de nombreux jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour toujours. » Voilà un verset d'espérance. L'espérance qui s'attache au fait que « Seigneur, je sacrifie ma vie pour toi et je sais qu'en retour, je serai heureux, moi et mes enfants, et que ta bénédiction, elle va couler, et que tu m'amènes dans ce pays de bénédiction, et que tu vas renouveler ton amour et ta grâce sur moi, jour après jour, pendant longtemps, pendant de nombreux jours. » Il y a une promesse de longévité qui est associée à l'obéissance à Dieu. Et ce sera le dernier long passage qu'on va lire, mais j'avais vraiment envie qu'on lise celui-là. Je ne voulais pas juste le commenter. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Jusque-là, il concerne l'œuvre que Dieu a faite pour nous, hein. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, car c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il n'est plus question de nous, là. On lève les yeux. Il est lui-même, bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Jésus. Il s'est sacrifié en premier. Dieu ne nous demande pas quelque chose de plus grand que ce qu'il a accompli. Il nous demande une réponse à ce qu'il a fait. Or, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Vous savez ce que veut dire Évangile ? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle de quoi ? Évangile en grec, c'était le mot « evangelion ». Et c'est un mot qui était utilisé quand on parlait d'évangile, parce que des nouvelles et des bonnes nouvelles, il pouvait y en avoir tout le temps. Quand on parlait de cette bonne nouvelle-là précisément, c'était pour annoncer la naissance d'un roi. C'était pour annoncer la naissance de l'héritier du trône. Et à ce moment-là, il y a des lettres et des messagers qui partaient dans tout le royaume annoncer l'évangile, la naissance du roi. Et voilà ce dont Paul dit qu'il est le serviteur. Voilà ce dont Paul dit qu'il est l'esclave. Il ne dit pas... Je suis l'esclave de cet évangile qui concerne le fait que Jésus nous a sauvés. Non, il dit, je suis le serviteur de cet évangile qui dit que Jésus est roi. Quand Jésus, tout a été réuni. Quand on lit ce qu'on lit là, il n'y a pas à contester. Je n'ai pas à contester avec Dieu. J'ai juste à dire, ok, moi je ne comprends pas encore ce que tu es en train de faire, mais viens m'expliquer, parce que je suis intéressé de savoir ce que toi tu fais. Je ne suis pas en train de te reprocher que ça ne marche pas comme moi, je voulais que ça marche. Seigneur, aide-moi à comprendre pourquoi tu fais les choses différemment de ce que j'attendais. Seigneur, j'ai confiance dans le fait que ce que tu commences, tu l'amènes jusqu'à son terme, tu le termines, parce que tu fais toutes choses belles en ton temps. Et l'évangile signifie la bonne nouvelle de la naissance d'un roi. Et j'aimerais insister ce matin là-dessus, sur le fait que mon salut, il a d'abord à voir avec le fait de reconnaître que Jésus est Seigneur, qu'il est mon Seigneur, et qu'en plus de ça, il est mon Sauveur. Mais il est d'abord mon Seigneur. Si Jésus n'est que mon Sauveur, il fait partie de ces options que j'ai en étagère. Il fait partie de cette clim ou de cette peinture métallisée parce que je peux quelque part m'en passer, je peux continuer à mener ma vie comme je l'entendais. Je sais que Dieu me sauve, je sais que Dieu fait grâce, je sais que Dieu pardonne. Quand je comprends la royauté de Christ, quand je comprends l'étendue de ce qu'il a fait, quand je comprends comment Dieu l'a élevé, quand je comprends à quel point l'évangile, ça concerne le fait qu'il est le roi de ma vie, ça veut dire que je ne peux plus avancer comme j'avançais jusqu'à présent. Ça doit amener un changement. Ça doit amener une conversion. Et quand il est question de notre conversion, de la conversion de notre cœur, c'est de cette conversion-là dont il est question. Il n'est pas juste question d'accepter un sauveur. Il est question d'accepter de changer de royaume. Je donne ma vie à Christ car tout lui appartient, même moi. Et je perds mon indépendance. C'est dur, hein ? Et j'ai l'impression de perdre ma liberté parce que je laisse le volant à quelqu'un d'autre. Mais ô combien il y a des promesses de bonheur quand on fait ça. Et donc c'est ça la vraie conversion. C'est offrir ma vie en sacrifice. Dire ok Seigneur, tout pour toi. Tout pour toi, ma vie t'appartient Seigneur, complètement. Et c'est raisonnable dans ta perspective. Ce qui est déraisonnable pour moi, est raisonnable dans ta perspective. Le fait que je sacrifie toute chose pour toi. Et en réponse, j'aimerais nous inviter à répondre de cette manière-là. Et je vais le lire et peut-être dans vos cœurs, ça va aussi faire écho. Ouais, Seigneur, moi je veux que mon intelligence, elle soit renouvelée. Je ne veux pas juste me conformer à ce raisonnement du monde. Je veux adopter ta perspective, Seigneur, dans ma vie. Je veux reconnaître que tu es bien au-dessus de moi. Je veux capituler devant ton autorité, Seigneur. Je veux dénoncer mon individualisme, je veux dénoncer mon indépendance. Je veux proclamer ma dépendance à ton esprit. Je veux reconnaître que tu es mon Seigneur avant d'être mon Sauveur. Je veux donner ma vie complètement, répondre à la tienne qui a été donnée jusqu'au bout. Je veux vivre, Seigneur, dans un nouveau royaume dont toi seul es le roi et pas un royaume dont moi je suis le maître. Et je veux croire, Seigneur, en me plaçant sous ton autorité, que tu déverses aussi en retour ta bénédiction sur ma vie. Et enfin, je veux plier le genou devant le Dieu très haut, mon Créateur, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a toute autorité, celui qui a un plan parfait pour moi. Oui, Seigneur, je veux me convertir de cette manière-là. Je veux répondre à ça. Et j'aimerais nous challenger ce matin. Voilà la réponse attendue de nos cœurs. Voilà la réponse attendue de nos cœurs. Un sacrifice total. Total. Seigneur, c'est toi qui conduis. C'est toi qui es mon roi. C'est toi qui es mon maître. Et je veux te suivre. C'est quand la dernière fois que tu as plié le genou devant Dieu, physiquement? C'est quand la dernière fois que tu t'es mis à genoux devant Dieu et que tu as aussi incliné ton cœur? C'est quand la dernière fois? J'ai réalisé il y a quelque temps, je vous le dis, mais je me le suis dit à moi en fait, j'ai réalisé il y a quelque temps que ça faisait longtemps que je n'avais pas de nouveau plié le genou. On s'en rend compte quand on n'arrive pas à passer longtemps parce qu'on est engourdi. Et je me dis, ben, Seigneur, je veux que ce soit mon sport. Je veux plier le genou devant toi régulièrement. Et je veux pas être engourdi, je veux avoir l'habitude de rester comme ça et que ce ne soit pas un problème. Et j'aimerais vous laisser ça ce matin, peut-être en signe et en résumé de ce message-là. C'est quand la dernière fois que tu as plié le genou devant Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as proclamé ce qui était là? C'est quand la dernière fois que tu as dit « Tu es mon roi et tu es le seul maître de ma vie » C'est quand que tu as dit « Je me sacrifie parce que c'est raisonnable de le faire et j'ai pas d'objection par rapport à ça » C'est quand? Pour ceux qui le veulent, je propose que ce soit maintenant. Daniel, est-ce que vous voulez juste reprendre un chant? Je propose qu'on finisse le culte comme ça, qu'on prenne un dernier chant ensemble. Et on n'est pas dans l'effet de groupe, d'accord? J'attends pas à ce que l'église entière se mette à genoux. Mais je veux vraiment vous inviter personnellement, si quelque part dans votre cœur, ça vous interpelle de dire, mais c'est quand la dernière fois? Ça fait trop longtemps, Seigneur, que je n'ai pas plié le genou devant toi et que je n'ai pas dit, tu es mon roi, tu es mon Dieu. Je vous encourage juste peut-être à profiter de ce chant qu'on va prendre maintenant pour le faire, simplement. Puis on va finir ce culte comme ça. Puis à la fin de ce chant, ceux qui ont besoin de prière, vous pouvez aussi vous avancer, on sera là pour prier pour vous. Voilà. Ceux qui veulent rester à l'église cet après-midi, manger sur place pour profiter de la piscine et profiter ensuite de la finale, c'est possible bien sûr. Il y a le Super U qui est encore ouvert si jamais vous voulez aller acheter quelque chose ou si vous avez déjà amené. Voilà. Merci à tous. Oui, Seigneur, tout est pour toi. Reçois nos cœurs, reçois nos corps, reçois nos âmes, Seigneur. Tout ce que nous sommes, Seigneur, est à toi. Que nous servions ta gloire, Seigneur, que nous servions à célébrer ta grâce, que nous servions à chanter ta grandeur, Seigneur, que nous soyons une lumière dans ce monde, Seigneur, parce que nos vies sont à toi, Seigneur. Nous savons que le monde parle de sacrifice et puis derrière il y a la mort et on en fait des héros, Seigneur. Mais nous savons que le sacrifice en toi, il donne la vie, Seigneur. Le sacrifice en toi, il donne la bénédiction, Seigneur. Parce que tu nous as montré, Jésus, qu'au travers du sacrifice, tu t'es relevé, Seigneur, pour une vie éternelle. Et avec toi, Seigneur, nous savons que nous pouvons sacrifier nos vies et nous relever pour l'éternité, Seigneur, en ta présence. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Amen. Amen. Je vous propose qu'on finisse le culte de cette manière. Et ceux qui ont besoin, avancez-vous et puis on priera pour vous. Et sinon, passez un excellent dimanche et peut-être à tout à l'heure pour la finale alors.